Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Cadillac, le 15 juillet 1941. Lettre du directeur de l'institution publique d'éducation surveillée de Cadillac à Monsieur le ministre secrétaire d'État à la Justice. Objet tentative d'évasion. J'ai l'honneur de vous rendre compte que les pupilles Simone X, Marcel X, Sophie X, Angèle X, Antoinette X et Georgette X ont tenté de s'évader hier 14 juillet 1941 au cours d'une sortie que j'avais organisée à la campagne à l'occasion de la fête de la première communion qui a été célébrée dimanche dernier. Tout s'était bien passé sans incident et dans la joie, lorsque le soir en rentrant vers 18h45, à l'entrée de la ville de Cadillac, les six pupilles susnommées ont quitté la colonne et se sont enfuies à travers les vignes.
Les mauvaises filles du château de Cadillac,
poursuivies sur le champ par la gendarmerie,
deuxième épisode, s'évadaient à tout prix, par Lily Corner et Véronique Samouilov.
Les cinq premières étaient arrêtées une heure après, dans un petit bois environnant, et ramenées à l'école vers 20h30. Il ne restait plus qu'à découvrir la jeune Georgette X. Celle-ci avait fait bande à part et n'a pu être arrêtée qu'à 23h30 dans une vigne située à environ 1 km du lieu d'évasion. En raison de la gravité de l'infraction, j'ai infligé à chacune d'elles une punition de 8 jours d'isolement, deuxième degré. Ci-dessous divers renseignements concernant les six pupilles. Simone X, confiée à l'administration pénitentiaire jusqu'à sa majorité pour vol. Pupille indisciplinée, d'un caractère difficile. Sophie X, confiée à l'administration pénitentiaire jusqu'à sa majorité pour vagabondage. Pupille qui se plie difficilement à la discipline de l'établissement.
On n'est pas dans une prison, mais enfin, on ne sort pas facilement de l'école de préservation de Cadillac.
Véronique Blanchard, historienne.
Les systèmes utilisés sont des systèmes de ruse, de complicité. Donc, on a des événements avec des jeunes filles qui vont prendre des draps à la buanderie, parce qu'il y en a une qui travaille à la buanderie, puis sauter des murs en pleine nuit. On a des sabots, c'est vraiment pas simple, hein.
Des jeunes filles avec leur uniforme en race campagne de la Gironde.
Olivier Dupéra.
On les identifie assez vite, je pense. Elles ont vite fait d'être ramenées vers Cadillac.
Là, il y a à peu près une soixantaine de dossiers dans ce carton, qui évidemment était là en l'occurrence enfermé depuis longtemps. Donc c'est principalement entre 1937, 1943-44.
Agnès Geoffrey, artiste plasticienne.
En fait, j'ai fait des impressions sur soie de ces archives. J'ai choisi la soie parce que c'était retrouver aussi une noblesse les concernant. Dans une des archives, il y a une jeune fille qui s'est automutilée, qui a avalé une épingle, pour quitter l'école de préservation de Cadillac, d'être placée dans un hôpital public extérieur à l'école, afin de pouvoir éventuellement s'en échapper.
Mis à part les tentatives d'évasion physique, ont-elles d'autres moyens d'échapper à la contrainte de l'institution, Sophie Mendelssohn ?
Il y a dans les interstices des possibilités de jeu entre la contrainte institutionnelle et le détournement des objets à disposition et en faire des possibilités, voilà, de liberté volée comme ça qui permettent de détourner des objets de leur fonction utilitaire. On prend de la craie des murs et on en fait de la poudre pour se poudrer le visage. On sent qu'il y a une vie souterraine. Parce que effectivement, comment ces jeunes filles pourraient survivre s'il n'y avait rien de rien qui venait un peu leur rendre l'élan? Parce que c'est ce qu'on voit aussi dans ces corps, c'est l'écrasement que produit comme ça la discipline constante qui s'impose voilà, à ces jeunes filles.
Cadillac, 1924. État des retenus à exercer sur le pécule des détenus à raison de bris, dégradations, malfaçons non excusables, défauts de tâches, amendes, etc. À dégrader le mur de sa cellule en enlevant le plâtre pour se poudrer le visage. 9,50 francs. À déchirer une couverture neuve pour faire des tapis dans sa cellule. 6 francs. À couper des chaussons neufs
pour les refaire à son idée. 9,25 francs.
a coupé une partie de l'enveloppe de son matelas pour se faire une ceinture.
A fait un mouchoir avec de l'étoffe volée.
A travaillé à l'atelier, à des ouvrages défendus et volé le coton de l'entreprise.
A cassé ses sabots, un carreau et une lanterne. 12 francs 35.
A écrit des obscénités sur les murs.
A déchiré un jupon. 1 franc 50.
Ah, par malice.
C'est le propre de tout lieu d'enfermement et de coercition. Ça ne peut pas ne pas générer des moments de révolte. Et,
Sophie Mendelssohn, psychanalyste.
Et d'espoir pour les filles que voilà, ces établissements ferment, elles se soutiennent. Il y a ce qu'on appelait les bifs. Les bifs, c'était les fiches administratives qui étaient récupérées par les filles et détournées. Elles utilisaient le revers de la feuille pour s'envoyer des messages. Et donc, il y a des messages qui disent, voilà, t'inquiète pas, il n'y en a plus pour longtemps, on sait que c'est bientôt la révolution, ça va fermer, enfin, donc il y a tout un travail de construction de complicité, de séduction, d'intimité avec les autres filles, et un souci de créer comme ça des formes de solidarité interne.
On a des merveilleuses archives qui sont les petits bifetons, qui sont les petits courriers que ces jeunes filles s'adressent en grande clandestinité. Et malheureusement, parfois, ces bifetons sont interceptés par l'administration.
Véronique Blanchard.
C'est évident que certaines de ces jeunes filles vont se rapprocher. Voilà, la douceur des propos montre qu'il y a des moments comme ça, de grande proximité, de grand soutien, de grande affection, qui sont peut-être des petits espaces d'émancipation et de liberté. On l'espère pour elle.
Christiane, elle, délit vol, comportement, paresseuse en général, intelligente, amitié douteuse. Simone D, délit vagabondage, incident à la liberté surveillée. Comportement, recherche des amitiés particulières et des atmosphères troubles. Jacqueline F, hypocrite, dissimulée et doucereuse, elle sera toujours spécialiste des amitiés particulières.
Alors, en pleine Seconde Guerre mondiale, en 1944, la France n'est pas totalement libérée, mais il y a déjà le sentiment qu'il faut absolument réformer la justice des enfants, et en particulier les institutions pour filles. Et donc, l'éducation surveillée, qui est déjà là en 1944, va demander à une psychologue très moderne, Dominique Ril, qui travaille avec un grand psychiatre de l'époque, le docteur Lagache, d'être en responsabilité pour réformer les institutions pour filles, en particulier Cadillac. Voilà, alors Mademoiselle Ril, elle est donc guide de France, psychologue, elle a des méthodes actives, modernes, dites féministes. Alors, je vais vraiment mettre des guillemets là sur ça. Et elle va tenter de mettre en place ses principales idées qui sont d'abord de mettre en place une ambiance beaucoup plus familiale que disciplinaire dans ces institutions. Ensuite, de former réellement les jeunes filles. Elle considère que seul un métier peut permettre à ces jeunes filles de retrouver ensuite le droit chemin. Elle parle aussi de psychopédagogie de l'affectif. Très vite, elle va se rendre compte que quand même, l'histoire de Cadillac ne permet pas l'ambiance feutrée et familiale qu'elle souhaite, que les jeunes filles sont très très difficiles, hein, qu'elles ne se soumettent pas facilement à sa psychopédagogie active et à sa volonté de réforme. Et elle va donc dire à l'éducation surveillée qu'il est impossible de réformer Cadillac, qu'il est impossible de faire du neuf sur du vieux, que l'histoire de Cadillac est beaucoup trop lourde, même pour elle qui est très active, et elle obtiendra dès 46-47 un nouveau lieu à Brécourt, dans le Val d'Oise aujourd'hui, pour mettre en place ces nouvelles techniques modernes.
Voici quelque chose comme 3 semaines, nous avions déjà parlé dans cette émission des efforts faits par l'État, par le ministère de la Justice, en faveur des enfants dits délinquants. Il vient de se tenir une session des directeurs des maisons d'éducation surveillées, et M. Michard est revenu accompagner cette fois-ci de Mademoiselle Dominique Ril, qui est directrice de la maison d'éducation surveillée de Brécourt en Seine-et-Oise.
RTF, 15 décembre 1949.
Et je crois, mademoiselle, que ce programme doit comporter pour les jeunes filles des préoccupations particulières. Il y a un souci de moralité, d'enlèvement moral.
Oui, surtout qu'il s'agit de former de futures maîtresses de maison et des mères de famille. Notre rééducation est donc avant tout basée sur une vie de famille réelle, c'est-à-dire une éducatrice entourée de 8 filles, vie dans un appartement autonome sur le modèle d'une famille nombreuse.
Mardi matin, un groupe de 45 jeunes délinquantes de 18 à 21 ans appartenant à l'institution corrective de Clermont, actuellement détenue à Fresnes, ont tenté de se mutiner. Après avoir refusé de se rendre à leur travail, elles coururent au réfectoire voler de la nourriture et à l'infirmerie où elles burent de l'éther. Ivres, les révoltés se livrèrent aux pires extravagances. Bris de clôtures et de vitres, bombardement des gardiens avec des briques. La police municipale ne parvint à rétablir l'ordre que dans l'après-midi. Les mutines furent arrêtées et emmenées au dépôt. Elles étaient encore dans un tel état d'excitation qu'elles brisèrent alors tout ce qui était à leur portée. 5 agents ont été blessés. L'aube, 8 mai 1947.
Donc en 1947, alors même qu'on commence à penser que Cadillac va être difficile à réformer, arrivent à Cadillac plusieurs jeunes filles qui sont les rebelles de Fresnes, les révoltées de Fresnes. Mais là aussi, elles sont considérées comme des jeunes filles difficiles. Hein. Elles se sont révoltées, elles sont montées sur les toits de Fresnes, elles ont chanté des chansons paillardes, elles se sont dénudées, elles vont se faire asperger par les pompiers. Voilà. Et ça va faire la une des journaux. On parle de sabbat, donc de sorcières, on parle de corps déchaînés, on parle de filles en perdition. Et puis, à Cadillac, Mademoiselle Rille, elle est partie avec soi-disant les meilleurs éléments professionnels, éducatrices, et les meilleurs éléments de jeunes filles, c'est-à-dire celles qu'elle imagine pouvoir rééduquer. Ce qui veut quand même dire que celles qui sont restées sont quasiment, dans la perception de l'institution, inéducables et particulièrement difficiles. Donc on a une ambiance qu'on peut imaginer assez effervescente à Cadillac, avec une sous-directrice qui est devenue directrice, Mademoiselle Pavone, qui va devoir gérer l'institution, toute l'histoire passé de cette institution, et un futur qui semble compliqué, puisque d'une certaine manière, l'administration a acquiescé quand Mademoiselle Rille a dit que c'était un lieu irréformable.
Ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, 5 août 1948. Notice sur la nommée Marguerite B. Ordonne le placement de B, Marguerite, dans l'institution publique d'éducation surveillée de Cadillac, Gironde, jusqu'à l'âge de 21 ans. Exposé succinct des faits qui ont motivé les poursuites. Coups et blessures volontaires sur la personne de sa mère.
Alors là, c'est toujours des documents qui me touchent beaucoup, puisque le document que vous me donnez là, qui s'intitule « Le portrait de Marguerite », est assorti d'un petit photomaton. Marguerite, elle a un sourire hein, sur cette photomaton. Elle regarde l'objectif. Elle est très brune, coupe au carré, et surtout des yeux très vifs. Mais ça, c'est peut-être moi qui recompose aussi.
Quels sont les antécédents de l'enfant sous le rapport du caractère, des mœurs et de la conduite? Sa mère étant infirme, l'enfant a eu trop de liberté, fréquente des milieux louches. Quels sont les moyens d'existence des parents? Sa mère est retraitée comme institutrice.
Alors Marguerite B, c'est effectivement une des pupilles qui arrive sur la dernière période de l'Institut public d'éducation surveillée au château ducal de Cadillac.
Olivier Dupéra.
C'est une jeune fille qui est placée parce qu'elle était violente avec sa mère. Donc elle arrive ici dans un environnement où il y a des filles très dures. Et elle-même était peut-être pas un ange non plus. Mais c'est effectivement l'une des dernières pupilles dont on ait la trace à Cadillac, et surtout celle dont la vie a été un peu plus documentée que d'autres, ne serait-ce que parce qu'elle a écrit, et elle a correspondu avec la dernière directrice, et que ses écrits sont très touchants et témoignent d'une personnalité assez complexe.
À quelle cause peut-on attribuer le délit ou le crime commis? Au peu d'autorité que la mère a sur son enfant. Observation. D'un caractère fantasque, il y a intérêt, même pour la mère, à ce que la jeune B. Marguerite reste éloignée de chez elle le plus longtemps possible.
Elle est placée par décision de la justice des enfants à Cadillac hein, jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle est poursuivie pour coups et blessures. La deuxième raison, c'est que sa mère étant infirme, l'enfant a eu trop de liberté et elle fréquente des milieux louches. Donc là, voilà, comme toujours, hein, la jeune fille qui fréquente des milieux louches Et là, on est dans le contrôle du corps féminin et dans les questions de genre, hein, vraiment, ce qui est très impressionnant, parce que ce qui vraiment devrait conduire cette jeune fille à être enfermée, c'est d'avoir frappé et d'avoir frappé fort une mère infirme. Puis après, on apprend que la mère de Marguerite est institutrice. Elle est pensée par l'institution comme trop laxiste, incapable de diriger sa fille. C'est quelque chose qu'on reproche très, très régulièrement aux mères de mauvaises filles. Hein. Et puis, il y a un vrai parallélisme des formes, si j'ose dire, entre le fait qu'une jeune fille devienne une mauvaise fille parce que sa mère est une mauvaise mère. Quels sont les rapports de l'enfant avec la famille? La mère aime beaucoup sa fille, mais cette dernière est loin de lui rendre l'appareil, si c'était si simple.
Comportement de Marguerite B. Arrivée à l'IPES de Cadillac le 8 août 1948. Elle fait toujours preuve d'un grand orgueil, aussi bien dans le mal que dans le bien. Elle s'évade fin janvier 1949 et se laisse docilement ramener par deux méritantes rencontrées sur la route. En février, alors qu'elle était punie, elle casse les carreaux de son dortoir pendant qu'on lui faisait faire sa toilette. Mise à l'isolement, tape dans sa porte, crie toute la nuit. Elle s'évade à nouveau en avril 1949 au cours d'une promenade générale et erre sans but pendant une semaine. Ramenée, elle est isolée, casse trois carreaux à la surveillance générale avec le souci d'attirer l'attention. Hurle, tape et on doit l'attacher sur son lit.
Quels moyens ont-elles de se révolter, ces pupilles de Cadillac, Agnès Geoffrey?
Alors, souvent, elles cassaient, elles criaient, elles chantaient. Souvent, c'était ça. D'ailleurs, là, il y a... Alors, que j'ai imprimé sur de la soie aussi, c'est des rapports individuels. Et c'est marqué dans les infractions dénoncées. En lui sortant son bol après son déjeuner, avait préparé son bol d'urine et me l'a jeté à la figure. Donc ça, c'est une monitrice qui relate ce fait. Cette pupille refusa de réintégrer sa cellule, s'accola à un mur et jeta coups de pied et coups de poing aux moniteurs et aux monitrices appelés à la rescousse. À la cour, appelle ses compagnes punies, chante des chansons immorales. La décision des punitions, 8 jours d'isolement, 2e degré.
Il y a quelques témoignages de foire, comme elle l'appelait, c'est-à-dire des révoltes. Il y en a une en particulier après l'arrivée des révoltés de Fresnes, donc sur les quelques années où il y a eu les plus dures ici, où le personnel de l'école ou de l'Institut public d'éducation surveillée est totalement dépassé parce qu'elles sont plusieurs à se monter l'une envers l'autre et puis du coup à casser tout, les portes, les fenêtres, à balancer des choses par les fenêtres. Et donc le personnel appelle la gendarmerie pour pouvoir les ramener à un certain calme. Et puis les plus récalcitrantes vont finir au cachot.
On va voir un petit cachot. Faire un peu attention à la tête.
Oui.
On va dans un petit escalier dérobé descendre et voir les cachots qui subsistent. Un des deux cachots qui subsistent à Cadillac. Et donc, il y a ces pièces assez exiguës qui font 1m50 par 1m50 avec un peu de jour à travers un grillage, mais donc qui sont éloignées de tout le reste du château, qui ont servi donc de lieu de punition pour les plus récalcitrantes. De mémoire, il y en avait 6 dans le château. Voilà, on pouvait être enfermé pendant de longues semaines pour les plus rebelles. Et s'évertuer à crier à l'extérieur sans que ça aboutisse à grand-chose, à vrai dire. Après, je pense que le plus douloureux dans le cachot, c'était qu'elles étaient éloignées de leurs congénères, et toutes seules, ici, enfermées, au pain sec et à l'eau. À travers cette petite fenêtre grillagée, on aperçoit les toits du cœur de ville de Cadillac, on aperçoit les coteaux au loin avec un peu de végétation, la Garonne. Je me souviens avoir rencontré une personne qui a enfant était à Cadillac et qui elle-même se souvenait dans les années 50, donc à la toute fin de la période de détention, se souvenait avoir aperçu des jeunes femmes qui criaient par les barreaux. Le château est en cœur de ville, donc...
Comportement de Marguerite B. Sa conduite est à peu près normale jusqu'en mai. Elle essaie le 22 mai de s'empoisonner avec du gardénal qu'elle a réussi à dérober. On la soigne. Elle refuse pendant 5 jours toute nourriture et demande du travail. On lui apporte son tricot. Elle en profite pour enfoncer dans son bras un morceau de son aiguille. Ramenée après opération, elle arrache son pansement. On la surveille, mais on doit l'attacher. Les jours suivants, elle se dit fatiguée. On l'envoie se reposer dans sa chambre où, 2 heures après, on la retrouve le bras ensanglanté, ayant encore essayé d'agrandir sa plaie. Le soir, elle réclame à manger, uniquement pour faire plaisir à son éducatrice.
Si j'ose dire, on s'attaque à leur corps et à leur corps féminin, qu'on essaye absolument d'effacer dans ces lieux de la discipline. Et en retour, les jeunes filles, elles vont mettre en scène parfois ce corps et elles vont le faire aussi dans des actes de rébellion, de colère et de souffrance. Donc on va avoir de la scarification, on va avoir des tentatives de suicide, il y a même des débuts de grève de la faim, etc., qu'on peut avoir dans certaines écoles de préservation. Donc des attaques corporelles d'importance.
Lettre de Marguerite, le 9 août 1949. Mademoiselle, je sais qu'après la conduite que j'ai eue jeudi dernier, vous ne pourrez rien moins que m'en vouloir et me mépriser. Cependant, puisque je ne puis plus vous demander votre confiance, je me permets quand même de vous demander un peu de votre affection. Vous pouvez continuer à être dure, mademoiselle, et je peux continuer à être stupide, et cela pendant très longtemps. Seulement, j'arrive à me demander quel sera le résultat. Il y a beaucoup de chances pour qu'il soit peu brillant pour vous et désastreux pour moi, et je ne demande rien moins que votre aide pour essayer d'être moins sotte, moins méchante aussi. Pensez-vous réellement qu'un monstre de 19 ans doive le rester toute sa vie? Je me le demande, mademoiselle. Alors il aurait mieux valu que je ne sois pas née. Mais songez qu'avant d'être un monstre, j'ai été moi aussi un être sensible.
Ce serait tellement simple qu'elle soit juste une mauvaise fille, hein, c'est-à-dire qu'elle soit, comme certaines, frustre, débile, hein, c'est souvent le langage qu'on utilise. Avec Marguerite, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a en face de l'institution une jeune fille plutôt éduquée, intelligente, fine, qui essaie d'être objective. Et en même temps, Marguerite est instable, butée, difficile à convaincre, fuyante, insaisissable. Là, je cite hein, le document. Voilà, et donc l'institution est en très grande difficulté avec Marguerite et Marguerite est en très grande difficulté avec l'institution.
Je me dressais cette nuit le bilan de ce que maman m'avait apporté. Elle me vaut d'être la fille de je ne sais trop quel père, de n'avoir jamais eu de foyer. À côté de cela, elle est ma mère, elle est malade et elle attend tout de moi. Ne pensez-vous pas, mademoiselle, qu'avant d'exiger de moi un foyer où elle trouverait une sécurité, elle aurait pu me donner l'exemple de ce foyer? Mieux vaut vous avouer tout de suite que la solution de me marier n'est pas à envisager, parce que je ne me sens pas les qualités requises pour faire une épouse et une maîtresse de maison. En admettant que vous m'accordiez votre aide et que j'y parvienne, dehors, il sera nécessaire que je travaille, et je ne me sens pas le courage ni les capacités d'être femme de chambre, et je n'ai aucun diplôme qui me permette l'accès d'un bureau.
Marguerite B. entre avec la directrice dans un dialogue extrêmement fin où elle montre, Marguerite, la conscience qu'elle a de l'impasse dans laquelle elle se trouve. À la fois, en quelque sorte, elle est invitée à profiter de ce que l'institution met à son service, avec beaucoup de guillemets, hein, pour faire d'elle une bonne jeune fille, tout en continuant à la considérer comme une fille coupable. Et ce que pointe Marguerite, c'est ça, c'est qu'en fait, de deux choses l'une, soit on la corrige et on la punit parce qu'elle est coupable, et dans ce cas-là, c'est pas à peine d'être bienveillante avec elle, il faut au contraire être très sévère, il y a des lettres où elle appelle la directrice à être encore plus sévère, oui, punissez-moi, j'ai fauté. Et en même temps, elle est cette fille intelligente et assez cultivée et qui va pouvoir avoir une vie libre, mais comment être les deux à la fois? Alors, le 13 août 1950 quand même, hein, donc Cadillac va fermer en 52, donc on est vraiment sur la fin de vie de cette institution. Marguerite écrit à la directrice. Chère mademoiselle, ces jours-ci, il y a beaucoup de travail, c'est-à-dire pas de place pour le cafard. Je ne sais pas si vous avez de récentes nouvelles de maman, mais au cas où elle irait très mal, donnez-moi quand même, je vous assure que j'essaierai d'être raisonnable.
Mademoiselle, il faut je sais qu'il est parfaitement inutile de vous faire des excuses, vous ne les accepteriez pas. Je sais aussi que tout un monde d'imprévus plus ou moins dégradants m'attend au dehors. Mais croyez bien, mademoiselle, qu'il me sera plus facile de les supporter que de supporter votre mépris. Il était écrit que je ne causerai jamais que de la peine à tous ceux que j'aime. Agréez, mademoiselle, les remerciements et les regrets d'un incorrigible démon. Maggie.
Marguerite B, elle va passer 3 ans à Cadillac, 3 ans émaillés de tentatives de fugue, de colère, de lettres intempestives à la directrice, mademoiselle Pavone. C'est des fois des lettres extrêmement affectueuses, d'autres fois des lettres de revendication. Donc voilà, c'est très turbulent. Il y a une première tentative de suicide qui n'aboutit pas. Et puis il y en a une deuxième qui malheureusement va réussir. C'est-à-dire qu'elle avait plus ou moins dit qu'elle le ferait un jour. Elle avait tenté une fois, elle avait menacé plusieurs autres fois. Et puis il y a un matin où elle est retrouvée dans sa cellule morte.
Chère mademoiselle, depuis que vous m'avez fait la promesse que je partirai très bientôt, la maison de détestable qu'elle me semblait me devient sympathique. Il s'en faudra de peu que je ne veuille plus la quitter. Il faut que je vous demande pardon pour toutes les méchancetés que je vous ai dites l'autre jour. Je voudrais ne plus vous en dire jamais. Toutefois, si c'est possible, rattachez-moi à vous que je puisse croire que tout ce que je fais de bien ou de mal vous touche autrement que comme un échec dans vos travaux. Pardon et merci. Votre grande Maggie.
À la fois, elles ne peuvent vouloir que sortir, mais elles ne peuvent aussi que redouter de sortir. Les liens familiaux sont coupés en général. Le travail qu'on leur propose est un travail très aliénant et voilà. Elles étaient vagabondes en entrant, en tout cas considérées comme telles, elles le seront en sortant. Donc comme si c'était possible de sortir de là où on a passé l'essentiel de sa jeunesse et puis de se trouver un mari, de faire des enfants et d'être tout ce qu'il y a de plus normal après avoir vécu la jeunesse la moins normale qui soit.
On est loin de bien comprendre les spécificités du suicide adolescent dans les années 50. Et après 1950, on pourra trouver encore dans les écrits des psychologues et des éducateurs de l'époque des choses aussi énormes que simulation, tentative de se rendre intéressant, intéressante, etc. N'empêche qu'un suicide tel que celui de Marguerite à Cadillac par pendaison, suivi d'un autre suicide, va enclencher la fermeture définitive de Cadillac par l'éducation surveillée. C'est-à-dire que là, c'est l'événement qui conduit à une fermeture, mais une fermeture qui est déjà dans les esprits depuis plusieurs années. Et en quelques mois, Cadillac ferme.
C'était Les mauvaises filles du château de Cadillac, second épisode, S'évader à tout prix. Merci à Agnès Geoffrey, artiste plasticienne, Véronique Blanchard, historienne, Olivier Dupéra, administrateur du château de Cadillac, et Sophie Mendelssohn, psychanalyste. Lecture Pierre-Marie Baudouin, prise de son Jeffrey Marianne et Romain Lenoir. Mixage Xavier Lévesque, archivina Pierre Pinault, attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Lily Cornaer, réalisé par Véronique Samouiloff.